Bonjour tout le monde. Ah, pour commencer, j'aimerais bien remercier les anciens Pascal, Roger, Ghislain de m'avoir permis de prêcher encore pour vous. Je veux remercier ma mère d'avoir venu tout loin de Vancouver pour m'entendre. Ce matin, je continue mon étude sur la prière sacerdotale de Jésus en Jean 17. En fait, par providence, ça serait la troisième prédication que vous allez recevoir sur l'Évangile de Jean. Il y a 2 semaines, on a eu Daniel, puis la semaine passée, Martin. Fait que moi, la troisième. Fait que, avant de commencer, on va faire un petit récap de début de la prière, avant de commencer. Fait qu'au début, Christ, il priait pour lui-même. Il priait pour la gloire de Dieu, et il priait pour le travail qui allait être accompli sur la croix. Le travail qui était planifié depuis la fondation du monde au sein de la Trinité et qu'il puisse exercer son autorité sur la vie éternelle pour la donner à tous ceux qui ont été donnés du Père à lui. On a vu que la vie éternelle, elle est véritablement éternelle et ne peut pas être perdue. Le sujet principal de son prière au début, c'est la gloire de Dieu. Ce matin, on va poursuivre le reste de sa prière, le verset 6 à 19. Et on va voir un peu la réalisation de la vie éternelle dans la vie du croyant. On va voir que les élus ne sont pas juste élus à la vie éternelle, mais ils sont élus même à la sanctification. Ils sont sanctifiés par l'Église. Le sujet principal de du section, c'est l'Église, mais c'est au travers la parole. Ultimement, c'est la parole qui est la centre de son prière et l'Église qui est fondée sur elle. Je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Avec Jean 17, 6 à 19. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné est issu de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils ont reçu, ils ont vraiment su que je suis sorti de toi, et ils ont cru que c'était toi qui m'as envoyé. Moi, c'est pour eux que je demande. Je ne demande pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Comme tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde. Eux sont dans le monde, et moi, je viens à toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux, moi, je les gardais en ton nom, ce nom que tu m'as donné. Je les ai préservés et aucun d'entre eux ne s'est perdu, sinon celui qui est voué à la perdition, pour que l'Écriture soit accomplie. Maintenant, je viens à toi et je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie complète. Moi, je leur ai donné ta parole et le monde les a détestés parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis plus dans le monde. Je ne te demande pas de les enlever du monde, mais de les garder du mauvais. Ils ne sont plus dans le monde comme moi, et je ne suis pas du monde. Consacre-les par la vérité. C'est ta parole qui est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et moi, je me consacre moi-même pour eux, pour qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la vérité que tu nous as donnée par ton Fils. Aidez-moi à exposer ce texte ce matin, qu'elle soit appliquée et que le monde qui l'entend soit sanctifié par ta parole. Aidez-nous à bâtir une église basée sur la parole et sur la parole seule. Amen. Amen. Je vous invite à prendre vos places. Alors, comme vous avez remarqué, le texte que j'ai choisi ce matin est assez long. Et la raison, c'est parce que je n'arrivais pas à couper cette section plus petite pour la traiter en morceaux. C'est parce que la contenu est tellement interdépendante. La raison, c'est que Jésus, comme bien du monde quand il prie, ils vont reformuler les mots qu'ils vont dire, ils vont se répéter, ils vont dire de différentes manières. Fait qu'il fallut que je traite l'ensemble pour saisir l'essence de cette prière. Donc, c'est quoi l'optique de cette section? Il prie pour la sanctification et la préservation de l'Église. C'est très central, mais ce n'est pas exactement le point central. Le point central, c'est la parole de Dieu et l'Église qui est fondée sur elle. C'est la parole de Dieu qui fait l'Église et non pas l'inverse comme les catholiques vont dire. Ultimement, il prie que l'Église soit formée, qu'elle soit fidèle, qu'elle soit sanctifiée et protégée par la parole de Dieu. Il prie qu'on reste fidèle à la parole de Dieu dans toutes circonstances, peu importe ce qui arrive par nos gouvernements ou autres. Pour comprendre un peu la dynamique entre les deux, on va retourner à l'Ancien Testament. On va aller au livre de Daniel. Je vous rappelle spécifiquement de l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego, qui en face de la peine de mort, de la persécution, ils ont décidé de rester fidèles au commandement de leur Dieu, Yahweh. Ils ont été commandés de louer un statue fait du roi Nebuchadnezzar. Et suite à leur refus, vous savez toute l'histoire, ils ont été lancés dans la fournaise. La sanctification que Jésus parle dans sa prière, de temps en temps, ça ressemble assez similaire à ça. Leur obéissance a causé le roi de se mettre en colère contre eux. Jean 17, 14. Moi, je leur ai donné la parole et le monde les a détestés parce qu'ils ne sont pas du monde. Jésus nous a donné plusieurs promesses. Et parmi ces promesses, il nous a dit qu'on va être haï par le monde, qu'on va recevoir les persécutions à cause de qui nous sommes. Mais ce n'est pas la fin. Il ne nous a pas promis juste la persécution, puis il va nous laisser dans notre coin, là. Il nous a dit qu'il va être là avec nous là-dedans. Le prochain verset, Jean 17, 15. Je ne te demande pas de les enlever du monde. Mais il demande quoi? Mais de les garder du mauvais. Dieu n'a pas enlevé Shadrach, Meshach et Abednego de leur situation, quand même qu'ils auront probablement prié fortement d'être enlevés. Si j'étais eux, j'aurais fait pareil. Mais Dieu a décidé autrement. Dans l'Ancien Testament, il y a trois grandes figures qui se retrouvaient dans une situation similaire, qui ont prié à Dieu d'être enlevés. On a Moïse en Nombre 11, on a Élie en 1 Roi 19, et on a Jonas en Jonas 4. Les trois ont prié, et Dieu les a refusés. Il a décidé de les faire passer par leurs circonstances, d'être sanctifiés par ces circonstances au lieu de les enlever. C'était sa volonté qu'il passe au travers de ces épreuves. Mais rappelez-vous, il était là avec eux parmi tous. Dieu ne va pas nous laisser. Jean 17, 11. Père Saint, garde-le en ton nom ce que tu m'as donné pour qu'ils soient un comme nous. Pour Shadrach, Meshach et Abednego, leur sanctification était avec du vrai feu. Ce ne serait pas toujours pareil pour nous, ça dépend, mais ça pourrait. On ne sait jamais où la direction de notre gouvernement, et même dans des endroits dans ce monde, ça arrive. La cause de leur sanctification était la fidélité à Dieu. Les moyennes de cette sanctification étaient la persécution. Fait que retournons un peu plus à la prière de Jésus. Comme j'ai dit, la contenu est un peu mélangée. Quand on prie, on change tout, puis on se répète, on explique. Il n'y a pas une structure évidente dans cette prière. Mais je vous soumets quand même trois points pour aider à décortiquer cette prière. Garde en tête que le thème central là-dedans, c'est la parole de Dieu. Fait que point numéro un, c'est la réception de la parole. C'est-à-dire ceux qui l'ont reçue. L'Église, bien, au début les disciples, mais plus tard l'Église composée des élus au travers les générations. Fait que vous. La deuxième, c'est les promesses de Dieu. Les promesses que Christ nous donne dans sa prière. Il promet deux choses. Il promet la haine du monde. Par contre, il promet aussi la protection dans ses persécutions. Et la troisième, c'est l'effet de cette parole. Le message qu'on a reçu de Dieu, c'est pas un message statique. C'est pas un message qu'on reçoit et qu'on passe à d'autres. Non, ça nous impacte. Ça nous sanctifie, ce message qu'on a reçu. Puis on est censé la transmettre aux autres. Fait qu'avant d'embarquer vraiment dans l'étude, on va arrêter puis on va définir c'est quoi la parole de Dieu avant. Dans la prière, Jésus utilise deux mots grecs qui sont souvent traduits par « parole ». Le premier, le plus connu, c'est le mot « logos ». Et cela, ça fait référence à la logique divine. Ça vient un peu de la philosophie grecque. Il dit en verset 6, il utilise. « J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Il est à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta logos, ta parole ». Et cela, ça fait référence spécifiquement à Jésus. Jean 1:1. Au commencement était la logos, la parole. La parole était auprès de Dieu et la parole ou la logos était Dieu. Jean 1:14, la parole est devenue chair. Elle a fait sa demeure parmi nous et nous avons vu sa gloire, une gloire de Fils unique issu du Père. Elle était pleine de grâce et de vérité. Ceux qui suivent mes enseignements le mercredi soir savent bien, j'ai déjà exposé ces textes en détail. Mais le logos, ça fait référence spécifiquement à Christ. C'est le Dieu, l'image visible du Dieu invisible, le logos, le Dieu fait chair. Le deuxième mot qui est utilisé, c'est le mot rhéma. Et celle-là, c'est un peu plus général. Ça fait référence vraiment aux mots que je dis là, des mots plus généraux. Parole, dans son sens simple. Et ça fait référence plutôt au message, aux Écritures saintes. Au verset 8, Jésus dit, « Je leur ai donné les rhéma que tu m'as données. » Fait que c'est plutôt la contenu du message. Ou les Écritures saintes même. Fait qu'il n'y a pas nécessairement de distinction directe entre ces deux mots. Logos, elle peut être utilisée pour des mots simples, mais ça a aussi des connotations, des implications beaucoup plus grandes que ça quand c'est utilisé. Fait qu'en mettant tout ça ensemble, si on veut définir c'est quoi la parole de Dieu, c'est autant Jésus que l'Écriture sainte, la Bible elle-même. OK. Fait que point numéro un, la réception de cette parole. Pour comprendre la réception, j'ai trois observations. Le premier, c'est que les élus reçoivent la parole et gardent cette parole. Verset 6, j'ai lu tantôt. « J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Au milieu du monde, ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. » Je ne vais pas passer du temps à exposer la doctrine de l'élection. Je l'avais fait dans ma dernière prédication. Mais c'est qu'un partie de l'humanité était choisie par le Père puis donnée comme cadeau à son Fils. Et le message de l'Évangile, le message de Jésus est pour eux. C'est eux qui la reçoivent. Et c'est eux qui reçoivent, pas juste le message, mais le Christ lui-même. Et c'est même à l'exclusion des autres. Pourquoi je dis ça? Regardez verset 9. Moi, c'est pour eux que je demande. Je ne demande pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Il la répète quelques versets plus tard, verset 20. Ce n'est pas seulement pour ceux-ci que je demande, c'est-à-dire les disciples qui sont dans son entourage immédiat, mais encore pour ceux qui, par leurs paroles, mettront leur foi en moi. Fait que c'est les disciples qui sont immédiatement présents, qui voient Jésus en personne, et l'Église au travers des générations. Nous. Fait que Jésus prie pour nous quand il était en chair, puis aussi dans son intercession en éternité. Ultimement, c'est juste les élus qui vont croire dans ce message. Encore, retournez à Jean 1, 11 et 12. Elle est venue chez elle, et les siens ne l'ont pas accueillie. Il parle des Juifs. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu à ceux qui mettront leur foi en son nom. Fait que c'est pas tout le monde qui va recevoir le message du Christ, et c'est pas tout le monde qui va la recevoir. Là, il y a une quantité infinie presque du monde qui ont rejeté Jésus, même dans son époque, et quand même aujourd'hui. Fait que ce message que Jésus nous a livré, elle est comme beaucoup de choses dans la Bible, c'est une méthode trinitaire. Jésus indique ça au verset 8. « Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils l'ont reçu. » C'est ce qui dit que le Père, c'est l'initiateur du message. Christ, c'est les moyens, le livreur. Là. À Jean 12, 49 à 50. « Car moi, je n'ai pas parlé de ma propre initiative. C'est le Père qui m'a envoyé, qui m'a donné lui-même un commandement sur ce que je dois dire et ce dont je dois parler. Et je sais que son commandement est vie éternelle. Ainsi, ce dont moi je parle, j'en parle comme le Père me l'a dit. » Mais il y a un troisième membre de la Trinité, le Saint-Esprit. Et lui aussi est impliqué là-dedans. Si vous regardez en Jean 16, verset 13 à 14. Jésus, c'est dans son enseignement juste avant son prière, il dit ça. Il dit, « Quand il viendra, lui, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de sa propre initiative, mais il dira tout ce qu'il entendra et il vous annoncera ce qui est à venir. Lui me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi pour vous l'annoncer. » C'est le Saint-Esprit qui anime la parole de Dieu dans les cœurs des croyants. Excuse-moi, et sanctifie nos pensées. Richard Sibbes, un grand puritain très connu, il a dit ceci là-dessus. Ceux qui ne soucient pas de la parole sont étrangères à l'esprit. Et ceux qui ne soucient pas de l'esprit ne font jamais un bon usage de la parole. La parole n'est rien sans l'esprit. Elle n'est animée et vivifiée que par lui. L'esprit de la parole sont comme les veines et les artères du corps qui donnent la vie à l'ensemble. C'est pourquoi là où la parole est le plus révélée, l'Esprit est le plus présent. N'oublie pas, Jean 4, nous louons Dieu, pas juste en vérité, pas juste en doctrine, mais en esprit, par le Saint-Esprit. Observation numéro 2. Nous, ceux qui ont reçu la parole, on n'est pas dans le monde. On n'est plus du monde, mais nous sommes dans le monde. OK? C'est un des termes centraux de la prière. Les chrétiens, on est adoptés dans la famille de Dieu. On est adoptés de la famille de la noirceur pour être enfin adoptés dans la famille céleste. On n'est plus des citoyennes du monde déchu, dignes de la destruction. On a été sanctifiés de ce monde présent. Je parle de la doctrine de l'adoption, ce qui a déjà été appelé la plus tendre des doctrines. Robert Webb a dit, « Lorsque nous nous approchons de lui, dans l'intensité de l'adoration, nous recueillons toute la douceur de la paternité et toute la tendresse de la filiation. Lorsque les calamités nous accablent et que les problèmes nous assaillent comme un flotte, nous élevons notre cri et tendons nos bras vers Dieu comme un Père compatissant. Lorsque l'ange de la mort entre par la fenêtre de nos maisons et emporte les objets de notre amour, nous trouvons notre réconfort le plus cher en réfléchissant au cœur paternel de Dieu. Lorsque nous nous regardons au-delà de l'inondation, c'est la maison de notre Père sur les collines, couverte de lumière au-delà des étoiles, qui nous réconforte au milieu de l'effritement du tabernacle terrestre. Il faut réaliser notre nouvelle identité en Christ pour bien interagir dans notre monde. C'est parce qu'on est mort à notre ancienne identité. On a une nouvelle identité. Le chrétien charnel est une contradiction. Ça n'existe pas. Le chrétien doit toujours veiller sur sa manière qu'il mène sa vie. Nous sommes en relation avec Dieu et ses représentants ici. On a reçu la vie éternelle du Seigneur. Il y a bien des chrétiens qui professent la foi, mais qu'en parole, avec la bouche. Mais leur vie, c'est complètement pareil aux païens. Il ne démontre aucun signe de sanctification. Il n'y a même pas de marque de signification qu'ils sont chrétiens. Mais Jésus nous dit à plusieurs reprises qu'on va pouvoir distinguer les chrétiens par leur fruit. Il ne faut pas oublier qu'on est sauvé, oui, par la foi, mais ce n'est pas une foi qui est seule. La troisième observation. On doit aller dans le monde, on est envoyé dans le monde et on doit le faire en unité. Après avoir été adopté dans la famille de Dieu, on est maintenant renvoyé dans le monde avec la parole qu'on a reçue. On n'est pas censé de rester caché avec notre doctrine, mais de la proclamer à toute la création. Et on est appelé de le faire avec les frères et sœurs en Christ autant que possible. Il ne faut pas oublier que l'unité n'implique pas nécessairement l'uniformité. Il y a une distinction importante là. T'sais, on peut avoir des distinctions, différences d'opinion sur plein d'affaires. Les dénominations sont souvent des séparations pour la paix dans le corps de Christ et non pas des divisions complètes. Cela, il y en a, mais la grande majorité ne le sont pas. Autant que possible, il faut chercher l'unité, autant dans notre sein local, mais avec les autres églises qui croient dans le même Dieu. Par contre, on ne peut pas avoir cette unité avec des groupes qui professent une fausse Christ, une fausse Dieu ou une fausse moyenne de salut. Malheureusement, il y a des limites à cette unité. Fait qu'en résumé, c'est seulement les élus qui reçoivent la parole de Dieu. L'acceptation de cette parole nous fait adopter dans la famille de Dieu. Et maintenant, les fils et les filles de Dieu sont commandés d'aller dans le monde avec cette parole qu'on a reçue. Fait que point numéro 2. Les promesses de la parole. Avec cette parole qu'on a reçue, Christ nous a donné deux promesses. Le premier, c'est que le monde va nous haïr pour deux raisons. Le premier, c'est parce qu'on n'est pas de ce monde ici. Jean 15, 18 à 19. Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. Si vous étiez du monde, le monde serait ami de ce qui lui est propre. Si le monde vous déteste, c'est parce que vous n'êtes pas du monde, alors que moi, je vous ai choisi du milieu du monde. Malheureusement, le monde va nous haïr à cause de qui nous sommes. C'est la conséquence de notre nouvelle citoyenneté dans la royaume céleste. L'histoire de l'Église est littéralement pleine d'histoires de martyrs. Notre société présente, ayant été fondée sur des bases chrétiennes, est en train de virer complètement contre nous. On a eu un temps de paix pendant les dernières générations, mais ce n'est plus le cas. Mais ultimement, ils vont nous haïr à cause de notre sanctification. Christ n'a pas été crucifié par les Juifs à cause de son plan économique ou sa politique d'immigration. Il était crucifié pour sa sanctification, sa sainteté. C'était une odeur toxique même à ceux qui sont en train de périr. R.C. Sproul explore en profondeur cette idée dans son livre « La sainteté de Dieu ». Si vous ne l'avez pas déjà lu, fais-le. Christ avait une piété extrême et clairement visible dans le monde déchu. Et c'est pour ça que ça cause une réaction profonde dans l'homme qui haït Dieu. Et nous, les chrétiens, on est appelés à suivre dans les pas de notre Seigneur. On est appelés à compter le coup et prendre notre croix pour suivre notre Seigneur, peu importe où ça nous amène. Luc 14, 28 à 30. En effet, lesquels d'entre vous, si vous construisez un tour, ne s'assit pas d'abord pour calculer les dépenses et voir s'il est de quoi le terminer, de peur qu'après avoir posé les fondations, il ne soit pas capable d'achever, et que tous ceux qui le verront ne se moquent de lui et disent, « Cet homme a commencé à construire, il n'a pas été capable d'achever. » Sachez que la vie chrétienne, ça va vous coûter tout. Ça va vous coûter votre ancienne nature, hein, principalement. Devenir chrétien, c'est mourir à qui nous étions avant et de prendre la vie éternelle que Christ nous donne. Mais cette vie éternelle, dans le monde présent, comme j'ai expliqué, il va y avoir des réactions. La deuxième raison que le monde va nous haïr, c'est à cause du message qu'on a reçu, à cause de la parole. L'Évangile, malheureusement, est offensif. Les ténèbres détestent la lumière. Jean 3, 19 à 21. Et voici le jugement. La lumière est venue dans le monde et les humains ont aimé les ténèbres plus qu'à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque pratique le mal déteste la lumière. Celui-là ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en Dieu. Cette réalité que le monde va détester, cette parole, elle n'est pas une excuse pour changer notre message. Ce n'est pas à nous de faire ça. On a reçu la Bible de Dieu, pas divinement, là, mais livrée au travers des hommes. C'est un message final, elle est complète. Elle est ce qu'elle est. Il faut dealer avec ce qu'il y a dedans. Il y a bien du monde qui ne vont pas faire ça, qui trouvent que certains aspects de l'Évangile, le péché, la repentance, l'enfer, c'est des idées qui sont trop dures. Et ils vont changer le message pour que ça devienne un christianisme beaucoup plus « friendly ». Ça arrive tout partout. Alors, il y a des églises à Montréal qui se disent chrétiens, mais ça ne prend pas une connaissance très profonde de la Bible pour voir qu'il y a quelque chose de très, très différente de ce qu'on a connu de la christianisme. Comparons, même aujourd'hui dans notre culture moderne, comparons ce que la Bible dit sur les rôles des hommes et des femmes. Cela est en attaque immédiate par notre société. Ou même considérer l'existence des distinctions entre les hommes et les femmes. Vous savez tout ce que je parle. Il faut défendre l'Église et l'Évangile elle-même du sécularisme qui est toujours en train de venir pour nous, de nous corrompre de l'intérieur, qu'on change notre message, qu'on change la doctrine, qu'on change les croyances, la manière que l'Église fonctionne pour que ça soit plus friendly, que ça soit plus confortable au monde présent. James Montgomery Boyce liste 4 manières que l'Église peut tomber dans le sécularisme. Le premier, c'est d'adopter la sagesse du monde, c'est-à-dire la gestion de l'argent, que l'Église devient un business. C'est là où l'Évangile de prospérité prend racine. Ou même des manières un peu plus pas évidentes, du counseling séculier qui ne prend pas en considération le péché, qui le voit juste d'une manière matérialiste. Le deuxième point de sécularisme, c'est l'adoption de la théologie du monde, c'est-à-dire de nier des aspects qui sont classés stupides par les académiques, par le monde à l'extérieur. Prenez par exemple l'infaillibilité de la Bible, la résurrection, où il y en a plein d'autres, la liste pourrait être longue, des choses qui sont considérées stupides. La troisième, c'est l'agenda du monde, c'est-à-dire des activistes politiques, sociaux ou l'environnement ou quoi que ce soit. Ces choses, quand même, qui pourraient être importantes, servent à détourner le mandat de l'Église. On n'est pas une organisation d'activistes. Notre mandat, c'est les Écritures seules. Quand même qu'il pourrait avoir des confrontations directes avec ce que notre société fait, ce n'est pas notre mandat immédiat d'aller pour des causes sociales. Je ne vais même pas en nommer. La quatrième, c'est les méthodes du monde. Et je parle spécifiquement du worshiptainment, que ça a déjà été dit. C'est-à-dire que la culte de l'Église, ça devient un grand spectacle. La grande musique, des louanges et des méthodes manipulatives émotionnellement pour provoquer des conversions fausses. Et parmi les 4 que j'ai nommés, c'est 7 points-là qui me gossent personnellement le plus. Les 3 autres sont la corruption interne. Et lui, c'est un effet, mais c'est à l'extérieur plutôt. Le monde à l'extérieur voit ça. Il ne peut pas vraiment voir les autres, mais lui est visible. Tu peux aller sur l'Internet, tu peux voir des vidéos, certaines cultes de l'Église qui ont des machines de lumière, des feux, des danses, puis tout là. Le problème avec ça, c'est que l'Église est l'épouse de Christ. On a été livré à une Église, on a un livre qui nous décrit quoi faire avec cette Église, on a tout ce qu'on a besoin. Mais du monde veut changer cette épouse. Il veut la prendre, la déguiser comme un prostitué pour attirer des personnes charnelles. Cette attitude, ça va directement à l'encontre de les paroles de Jésus. Jean 10, 27. « Mes moutons entendent ma voix. Moi, je les connais, et c'est eux qui vont me suivre. » Si nous utilisons des méthodes du monde, on ne va que attirer les personnes du monde. Ils pourront avoir une sensation émotionnelle qui les accroche à cette culte, mais ultimement, c'est une fausse conversion. Ça prend le Saint-Esprit, ça prend la vérité, ça prend la parole. On pratique la prédication expositoire ici. parce que ça met la parole de Dieu au centre. C'est la parole qui va attirer les brebis. On fait pas un grand spectacle ici. Notre culte est assez simple. Et même, c'est des méthodes qu'on emploie ici, sont assez archaïques. Et contre-culturelles, c'est sûr. Mais malheureusement, c'est ce que notre fondateur nous a dit de faire, et on va le faire. Peu importe. L'Église, elle est concernée avec l'Évangile. Et les Écritures dont elle est fondée. Nous pratiquons le principe régulateur ici parce que ce qui est écrit est assez. Nous refusons des prophètes et des révélations modernes car ce qui est écrit est assez. Construisons nos maisons, la maison de l'Église, sur la pierre centrale et forte de la parole de Dieu et non pas sur la sable, basée sur ce que la société veut qu'on se base. Parce que ça change. À quelques années, la société va nous obliger de changer encore. Et l'Église, on ne va même pas savoir c'est quoi rendu là. En changeant notre message, on la perdra, tout simplement. Puis en même temps, on va perdre nos âmes. La deuxième promesse que Christ nous donne, c'est la protection dans ce monde. Il sera là avec nous. On va garder dans ce monde quand même ces tribulations. Notre fidélité à la parole de Dieu ne serait pas en vain. Christ ne va pas nous enlever. Jean 17, 15. Je ne te demande pas de les enlever du monde, mais de les garder du mauvais. Comme j'ai dit au début, on a Moïse, on a Élie et Jonas qui ont prié sincèrement à Dieu de les enlever. Il les a refusés. Son volonté était qu'ils restent dans ce monde déchu. Il nous a donné des armes pour se combattre contre notre monde, contre le péché qui existe partout et même à l'intérieur de nous. Et c'est la parole de Dieu. Nous demeurons pécheurs dans ce monde jusqu'à notre glorification au retour de Christ. Nous resterons ici jusqu'à son retour, mais sous la protection du Seigneur. Matthieu 10, 28. Ne craignez pas celui qui tue le corps et qui ne peut pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire disparaître l'âme et le corps dans la gehenne. Nos âmes sont sécures dans les mains de notre Seigneur. Peu importe ce qui arrive autour de nous, si on est en Christ, l'endroit le plus sécur dans l'univers, c'est dans les mains de notre Seigneur. Il est fidèle. Il ne nous laissera pas tomber. Il sera là, nous, pour nous réconforter dans ces temps. On va avoir la joie. Si on pense à Paul qui était en prison, il chantait. Parce qu'il y avait la joie à l'intérieur qui vient que de Dieu. Dieu était là avec lui, tandis ses circonstances. Le monde autour de nous peut détruire nos corps. Et c'est tout. Il ne peut pas toucher nos âmes. Et c'est seulement la mort qui va nous enlever de ce monde. On va rester, puis on va essayer d'être protégés. Verset 12. Lorsque j'étais avec eux, moi, je les ai gardés en ton nom. Ce nom que tu m'as donné, je les ai préservés et aucun d'entre eux ne s'est perdu. Sinon, à celui qui est voué à la perdition pour que l'Écriture soit accomplie. C'est ici où l'intercession de Christ commence pour nous. Il dit qu'on est préservé. Dans le contexte de la persécution et tout, la type de protection en tête, c'est la préservation comme un soldat qui protège les ennemis attaquants. Spécifiquement, il mentionne le diable, qu'il protège les disciples et les chrétiens qui suivra du diable. Mais il ne l'a pas fait pour toutes. C'était seul le fils de perdition qui a été perdu, Judas. Pour comprendre comment cela est arrivé, il faut comparer Pierre et Judas. Les deux ont trahi Christ. Pierre, la veille de son crucifixion, il a nié Jésus 3 fois. Et Judas, en disant aux Romains, c'était où Jésus? Mais Jésus n'a pas réagi pareil pour les deux. Il a prié pour Pierre qu'il ne perde pas sa foi, qu'il soit protégé spécifiquement. Luc 22, 31 à 32, Jésus dit, « Simon, Simon, le Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas tout à fait, et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Fait que Christ a prié pour Pierre. Après son chute, Christ l'a rétabli avant son ascension à la fin de l'Évangile de Jean. Et par la suite, il est devenu un des apôtres principaux dans la jeune Église. Mais ce n'était pas pareil pour Judas. Jean 13, 27. Au début des enseignements de Jésus, au dernier repas, il dit... Est-ce que j'ai perdu ma place? C'est alors, après le morceau, que le Satan entra en lui, Judas. Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le vite. » Christ ne l'a pas protégé et ne l'a pas rétabli. Judas n'était pas capable de trouver la repentance après. Matthieu 27, 3 à 5. Voyant, c'est Judas, voyant qu'il a été condamné, Judas, qui l'a livré, fut pris de remords et rapportera les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens, en disant, « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent, « Que notre importe, c'est ton affaire. » Judas jeta les pièces d'argent dans le sanctuaire et s'éloigna pour aller se pendre. Il s'est juste senti mal de ce qu'il fait. Et c'est tout, c'est arrêté là. Ce n'est pas la vraie repentance de sentir mal. Il ne la trouvait pas, la vraie repentance. Et tout cela, ça se fait pour la gloire de Dieu. Et ça met le doigt directement sur le fait que le salut, elle est souveraine. C'est Jésus qui exige son autorité sur la vie et la mort et sur la vie éternelle. Jean 17, 2. Comme tu lui as donné pouvoir sur tous, il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. La salut, elle est souverainement accordée. Et c'était tout avec un but. Check la fin de verset 12. Sinon, celui qui est voué à la perdition, pour que l'Écriture soit accomplie. Ce n'était pas une surprise que Jésus s'est fait trahir. C'était la réalisation d'une prophétie au psaume 41, verset 10. « Même mon ami, celui qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, leva le talon contre moi. » C'était toujours dans le plan éternel de Dieu que cette trahison se passe de cette manière. Entre Pierre et Judas, c'est seulement la prière d'intercession de Christ qui a fait toute la différence. Les deux ont trahi Christ, mais il y a seulement un qui est revenu. Christ peut pardonner toutes nos offenses. Comme disait R.C. Sproul, tout péché est la trahison cosmique. Tous nos péchés qu'on commet jour à jour, c'est au même niveau que Pierre. Mais c'est par l'intercession de Christ qu'on peut avoir une relation avec Dieu, qu'on peut être rétabli comme il a été rétabli. Ne sois pas troublé par vos anciens péchés. Si vous faites partie de l'Église, vous avez une médiateur parfaite auprès de Dieu. C'était que la prière de Jésus et son intercession étaient assez. Hier matin, ma mère m'a raconté une histoire pour mettre en évidence l'efficacité de la prière dans la vie des croyants. Elle a prié pendant 10 ans pour un collègue de travail qui était pris full dans le New Age. Mais il y a quelque temps, cette même femme, elle est tombée très malade. Elle était confrontée par l'impuissance des dieux qu'elle s'est faite. Sur son lit de mort, entourée de cristal, qui aidait pas, qui faisait rien. Après avoir entendu parler de Jésus, elle a décidé de crier à Jésus pour la guérir, pour la sauver. Et Dieu l'a faite. Suite à sa guérison miraculeuse, cette femme s'est détournée de toutes ses idoles, de les cristals et tout, et a commencé de suivre Christ. Et ça fait 2 semaines qu'elle est baptisée. Après 10 ans de prière, ça a pris. 10 ans. Dieu y a répondu. Point numéro 3. L'effet de la parole. Donc, on a reçu la parole. On a reçu les promesses incluses là-dedans. Et c'est quoi l'effet de cette parole sur nous? On lit au verset 17. « Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. » C'est la phrase culminante de la prière de Jésus et c'est le point central de son prière. Il nous a donné cette parole pour qu'on l'utilise, pour qu'on l'utilise pour notre sanctification. L'Église et les chrétiens sont l'objet de la sanctification. Le chrétien doit être complètement dévoué à la vérité de Dieu. On ne peut pas être sanctifié par l'erreur. C'est pour ça que la doctrine est tellement importante pour poursuivre la vérité de Dieu, pour que ça nous affecte, pour que ça nous sanctifie, que ça transforme nos cœurs, nos âmes et nos cerveaux. Le mandat de l'Église, c'est de faire ça. Et concerné avec les Écritures seules. Je ne suis pas ici pour vous raconter des blagues ou des histoires drôles. Je ne suis pas ici pour votre divertissement. Si c'est ce que vous cherchez, centre d'achat n'est pas loin. On est ici pour entendre la parole de Dieu semaine après semaine. C'est la parole de Dieu qui a sanctifié l'Église il y a 500 ans, au temps de la Réforme. Sola Scriptura était la point focal de la Réforme. Un cri de guerre. C'était la seule chose qui pouvait confronter l'autorité de Rome et le pape. Ce n'était pas Martin Luther qui l'a fait par ses propres œuvres, mais c'était la parole de Dieu qui a été mise dans les mains de la population. C'était la seule chose qui pouvait sortir l'Europe des ténèbres des Moyen-Âges et c'est la seule chose qui peut amener les morts à la vie. C'était quand la parole de Dieu était cachée que le monde était couvert des ténèbres. C'est le péché qui couvre les yeux, excuse-moi, et nous rend aveugles à la lumière de la parole de Dieu. La croissance dans la vie chrétienne, elle ne se fait pas par d'autres moyens que par la parole. Donald Gray Barnhouse a écrit, « C'est la parole de Dieu qui peut établir le chrétien en lui donnant la force de vaincre les anciennes forces et de vivre des nouvelles. Il n'y a pas d'autre moyen d'y parvenir. » S'appuyant sur l'enseignement de Jésus, en Jean 17, Barnhouse est allé jusqu'au point d'insister. Vous ne trouverez pas un seul chrétien sur cette terre qui se soit développé en force de sagesse et de témoignage dans le Seigneur et qui y soit parvenu par d'autres moyens que l'étude et la méditation de la parole de Dieu. C'est la connaissance de Dieu qui nous purifie nos cerveaux et nos cœurs. Elle nous donne la sagesse qui vient uniquement de Dieu. Elle expose nos péchés et nous mène à la repentance. Aujourd'hui, nous avons un accès incroyable à la Bible. Sur mon téléphone, je peux avoir un nombre quasiment infini de différentes traductions, de toutes les différentes langues, de versions. Cela est assez unique dans l'histoire. Mais le monde ne lise plus leur Bible. Nous avons tellement de sectes et de groupes hérétiques même dans ce monde parce que le monde ne connaît plus leur Bible. Un enseignant peut venir puis va persuader une foule facilement par sa doctrine nouvelle inventée, qui sont clairement pas bibliques si tu connaissais ta Bible un petit peu même. Osée 4, 6. Mon peuple périt parce qu'il n'y a pas de connaissance. Puisque toi, tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai de mon sacerdoce. Comme tu as oublié la loi de ton Dieu, moi de même, j'oublierai tes fils. C'était Spurgeon qui a sorti un quote très connu. Pour certaines, il y a assez de poussière même sur vos Bibles pour écrire « condamné avec votre droit ». Dans le passé, on avait l'excuse de ne pas avoir accès direct à la Bible. Mais aujourd'hui, c'est pas pareil. On a un accès illimité. Le christianisme aujourd'hui, en majorité, est tellement faible car le monde ne connaît pas le Dieu qu'il professe. Ils ne connaissent pas la parole de ce Dieu. Ils se fient sur des mimes, là, des petites quotes là, sur l'Internet. Là, c'est ça ma foi. Mais la Bible est assez épais. Il y en a du stock là-dedans. 1 Thessaloniciens 4 dit, « La volonté de Dieu, c'est votre sanctification. » Et cette sanctification, la volonté, elle se fait au travers de la connaissance de l'Écriture de Dieu, des paroles de Dieu. Christ a fondé l'Église par son sang. Il aime son Église et ne va pas tolérer longtemps des mauvais traitements de son épouse. Il désire qu'elle soit lavée par la parole. Éphésiens 5, 25 à 27. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle afin de la consacrer en la purifiant par le bain d'eau de la parole pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais saint et sans défaut. C'est ça le mandat de l'Église et de chaque chrétien. Qu'on se base sur la parole de Dieu en tout ce que nous faisons pour notre sanctification qui est la volonté de Dieu pour nos vies. Le monde va nous haïr à cause de ça. Mais Christ va être là avec nous. Dans ce pays, nous avons un accès libre à la Bible. Mais ce n'est pas pareil tout le monde dans ce monde. Et ce ne serait pas nécessairement toujours pareil dans notre pays. Jean 4, 13 à 14, en parlant à la femme samaritaine, Jésus dit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Celui qui boira de l'eau que moi, je lui donnerai. Celui-là n'aurait jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. » Buvez de cette eau. Amen.